Depuis plusieurs décennies, les enquêtes d'opinion montrent que les Français entretiennent un rapport ambigu avec les sciences et les technologies étant capables du meilleur comme du pire. Les Français sont partagés entre un sentiment de confiance pour les solutions et les découvertes apportées par les sciences et une méfiance sur ses effets délétères et ses dangers potentiels. Mes invités se sont intéressés de près à ces relations ambivalentes, sujet que nous allons aborder avec Marie-Françoise Chevalier-Le Guyader de l'IHEST et le consultant de la société CAP Stéphane Rosès. L'émission étant enregistrée, je ne pourrai pas recevoir vos messages comme d'habitude. Il est là avec nous, Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
Les renards nous rendent visite à la une de la science aujourd'hui.
Oui, et ils arrivent avec une question. Doit-on toujours les considérer comme des animaux nuisibles? C'est le cas en France, mais pas en Suisse ou au Luxembourg. On en discute avec l'ethnozoologue Denis Richard Blackburn.
Et c'est Stéphanie Texier qui est aux commandes de l'émission, préparée par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les Français et la science, un nouveau président et le dossier de l'émission dans un instant avec mes invités Marie-Françoise Chevalier-Le Guyader qui publie l'abécédaire citoyen des sciences aux éditions Le Pommier et Stéphane Rosès. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Marie-Françoise Chevalier-Le Guyader, est-ce que les citoyens participent aujourd'hui activement aux grandes avancées de la connaissance scientifique? Est-ce que la science leur ouvre ses portes?
La science ouvre ses portes. Fondamentalement, je pense qu'un scientifique qui est motivé par son travail a envie de le communiquer, a envie de l'enseigner aussi. Et toujours cette relation, depuis la nuit des temps, est omniprésente. Alors après, les conditions peuvent être plus ou moins faciles, plus ou moins... Et il est vrai aujourd'hui que l'exploitation quasi minière de la connaissance dans tout le dispositif mondial de la connaissance de recherche rend l'exercice, la pratique professionnelle difficile, centrée sur l'immédiateté, on y reviendra peut-être, sur la publication. Et du coup, effectivement, des scientifiques n'ont pas toujours forcément tout le temps qu'ils voudraient pour faire ça. Mais fondamentalement, bien sûr, et le scientifique ne peut vivre que de l'échange avec des jeunes étudiants, avec le public, c'est un peu différent, mais en particulier avec les jeunes.
Stéphane Rosès, qui de Marine Le Pen ou de Emmanuel Macron vous paraissez le candidat le plus scientifique des deux? Question piège.
Écoutez, si on prend le débat de la semaine dernière, sans conteste, Emmanuel Macron apparaissait beaucoup plus précis dans ses argumentations, au risque d'ailleurs d'apparaître comme du côté du gouvernement des choses, alors que Marine Le Pen tentait, mal réussi, mais d'apparaître du côté des hommes. Elle mettait un peu en exergue, pas seulement le peuple contre les élites, mais l'idée d'un côté un calculateur froid, s'occupant des chiffres, de la finance, de l'économie, de complaire à ceux qui dirige en haut le monde, alors qu'elle serait du côté de la souffrance et des passions.
Bon, en tout cas, on n'en a pas beaucoup entendu parler quand même de science à l'occasion du débat.
Hein. Non, pas
l'environnement,
du débat,
rien
effectivement,
du tout.
Pas le débat, mais on en parlait là juste avant l'émission. Effectivement, Emmanuel Macron à un moment, il a utilisé le terme de savant. Ceux qui savent, dans une période où on est volontiers critique à l'égard des experts qui accompagnent un cours des choses déstabilisant, il a un peu mis en exergue la recherche, les chercheurs et les savants.
Les Français et la science, donc, on se retrouve dans un instant pour en discuter avec vous et sur France Inter. Le renard mérite-t-il toujours sa réputation d'animal nuisible? Question posée donc aujourd'hui à la une, à l'occasion d'ailleurs d'un rendez-vous qui va se tenir à Paris les 12 et 13 mai, donc cette semaine, à l'université Pierre et Marie Curie. Mieux connu, il sera bien vu. C'est le sous-titre justement de ces deux journées. Denis Richard Blackburn, bonjour. Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes docteur en éco-éthologie, en ethnozoologie au Muséum National d'Histoire Naturelle. Pourquoi le renard roux apparaît toujours comme un animal nuisible?
Alors c'est très culturel, hein. C'est un animal qui a une histoire qui est mêlée à celle de l'homme quasiment depuis la nuit des temps. C'est un animal très ambigu, c'est un animal qui ne peut qu'interpeller constamment. Et on a du mal à le classer. Si vous voulez, dans sa classification scientifique, c'est un carnivore. En fait, c'est un omnivore. Ensuite, on dit c'est un canidé et il a des comportements félins. Si vous voulez, c'est une espèce qui toujours pose problème. On l'admire par ses capacités ses capacités à rebondir, si vous voulez, à reconstituer ses effectifs. Et puis en même temps, on le craint depuis la mythologie, on le craint dans la littérature, c'est le farceur, c'est le roman de renard qui se moque des nobles et des grands, etc. C'est celui qui pose problème, quoi. On va dire ça comme ça. Un petit peu, d'ailleurs, comme l'homme moyen, qui en même temps ont toutes ses possessions domestiques, puisqu'en plus, bon, bah, le renard a cette réputation de s'attaquer aux poules, ce qui aujourd'hui, au début du 21e siècle, signifie simplement que s'il arrive à attraper une poule, c'est qu'elle est mal. On a tout ce qu'il faut si vous voulez pour préserver les gélines aujourd'hui.
Denis Richard Blackburn, quelles sont les conséquences de cette classification comme nuisible pour lui, le renard, dans sa vie de tous les jours?
Alors déjà, comme on est en France et qu'on adore les mots, on a supprimé le terme nuisible récemment et maintenant c'est simplement, mais ça ne change absolument rien pour lui ou pour ses congénères, c'est une espèce susceptible de causer des dégâts.
Voilà. Pas mal.
Donc on a opéré un glissement, un habile glissement sémantique, mais ça change pas grand-chose pour le renard. Alors pour lui, ça veut dire qu'en fait, il peut être tiré, piégé toute l'année. Donc on se trouve en France avec des renards dans les régions où il est effectivement soumis à ce traitement délétère qui sont excessivement difficiles à voir. Sauf au moment où ils éduquent leurs jeunes, enfin au moment où ils alimentent leurs jeunes en prenant beaucoup de risques sur les prés fauchés. Par contre, si on s'éloigne de la France et on va par exemple en Suisse, où le renard n'est plus chassé dans certains cantons, comme à Genève, eh bien on s'aperçoit premièrement que ce qui avait été prévu, c'est-à-dire que Genève serait envahie de renards qui mordraient les petits-enfants, etc., eh bien c'est totalement faux. Mais simplement, les gens ont le plaisir de pouvoir arrêter leur voiture sur une route et de voir le renard qui mulotte, qui capture des campagnols devant eux. Donc c'est un spectacle, c'est quelque chose qui... Et on voit bien quand on parle avec des Suisses que quand ils viennent de voir un renard et qu'ils parlent du renard, ils ont les yeux qui brillent. C'est un animal qui est encore chargé d'une très forte charge émotionnelle.
Est-ce que le renard en France est menacé par son statut d'une certaine manière?
Non, je ne pense pas qu'on puisse parler d'une espèce menacée. C'est je vais peut-être faire bondir des protecteurs. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, le renard reconstitue ses effectifs assez rapidement. Et malgré le fait qu'il y en ait aux environs de 800 000, 800 000, c'est le chiffre qui est retenu par la fédération ou par les chasseurs. On dirait entre 600 000 et 1 million de renards qui sont tués tous les ans, tirés, piégés, déterrés. Les populations ne bougent pas tellement, sont relativement stables. Donc on peut se poser des questions sur l'intérêt de détruire des renards.
Vous préparez pour ce colloque dont parlait Mathieu une publication qui vise à comptabiliser les services écologiques rendus par le renard. D'un point de vue purement financier, est-ce que vous avez quelques premiers résultats à nous communiquer?
Donc effectivement, j'ai commencé un travail là-dessus. J'étais arrivé à une conclusion d'environ, en calculant au plus bas, mais je vous demande beaucoup de prendre ça avec beaucoup de pinch of salt, comme on dirait en anglais, hein. J'étais arrivé aux alentours de 2000-2400 euros par renard, par an, économisé par le fait de sa prédation à mi-vie sur les campagnols de milieu ouvert.
Donc ça veut dire qu'il faut le protéger, en gros?
Mais oui.
Ça, il nous fait faire des économies.
Non, mais vous avez parfaitement résumé.
Bon, bah écoutez, voilà.
Il faudrait effectivement le protéger, parce qu'en fait, on n'a plus grand-chose à lui reprocher, ce renard.
Bon, Denis Richard Blackburn, merci beaucoup. Et donc, ces deux journées, le 12 et 13 mai prochain, autour du renard, ce sera à l'université Pierre et Marie Curie. Merci beaucoup, Axel.
À demain.
À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, des chercheurs de l'université de Bristol qui pensent avoir mis la main sur l'un des plus vieux fossiles d'animaux jamais trouvés. Mais il pourrait aussi s'agir d'une simple algue, cet être vivant nommé Weng An Biota, fossilisé il y a 600 millions d'années, a une forme de boule microscopique parsemée de multiples piquants. Il a été découvert dans une roche déjà connue pour abriter des formes de micro-algues fossiles parmi les plus anciennes découvertes à ce jour. Certains détails de sa structure font penser à une possible appartenance au règne animal, plus particulièrement au stade embryonnaire des cellules. Les chercheurs sont donc à la recherche de la forme adulte de l'organisme dans les mêmes roches afin de valider leur découverte. Le fleuve Amazon a-t-il un jour été un océan? Une étude publiée jeudi dernier suggère qu'une large partie de la forêt amazonienne actuelle était il y a 10 millions d'années complètement inondée par la mer des Caraïbes. Les spécialistes de l'Amazonie étaient d'accord pour dire qu'une partie de la forêt avait été un jour sous les eaux. Mais quant à savoir dans quelle proportion et quand, le sujet était fortement débattu. Pour en avoir le cœur net, des chercheurs sont allés forer en plusieurs points de la forêt sur 600 mètres. Ils montrent justement que la forêt a été plusieurs fois inondée sur des périodes plutôt courtes allant de 200 000 à 400 000 ans. Une conclusion inattendue mais importante pour l'histoire de la biodiversité de cette forêt amazonienne. Et puis ce nouveau dinosaure découvert en Chine ressemblait à une poule. Une équipe de paléontologues de l'université de Hong Kong dévoile le fossile d'un nouveau spécimen vivant il y a 125 millions d'années, le Jianan Yualong, haut d'environ 1 mètre. L'animal était couvert d'un duvet de plumes asymétriques, c'est-à-dire des plumes de taille et de texture différentes de chaque côté de l'arête rigide centrale. Un détail important car l'apparition de ce caractère est très liée à l'apparition du vol. Même si ce caractère seul ne suffit pas à l'affirmer, les auteurs se risquent à imaginer que le petit dino était volant. Quoi qu'il en soit, c'est l'un des dinosaures les plus ressemblants de nos dinosaures actuels, les oiseaux. Allez, dans un instant, les Français et la science. Let them
Brothers and sisters, you never miss your water till your well runs dry, till your well runs dry. Brothers and sisters, so let the teardrops fall for what you have done, hurting so many people, and you have no mercy. Let them fall, let them fall, let them fall from your eyes. You're all alone, and you have no one to call your own. You're taking up your telephone, begging me to come home. But listen, my friend, I'll never make that mistake again, 'cause you don't need me as a friend. So let the teardrops fall. To call your own, you're taking up your telephone, begging me to come home. But listen, my friend, I'll never make that mistake again, 'cause you don't want me as a friend. So let the teardrops fall, let them fall, for what you have done, you show no mercy. Let the teardrops fall, no pity on the little children.
Let the water run dry avec Ken Booth à l'instant.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Les Français et la science, dossier donc de l'émission cet après-midi avec mes invités Marie-Françoise Chevalier-Le Guyader. Vous avez été la préfiguratrice, hein, c'est comme ça qu'on dit, et la directrice de l'IHEST, l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie. Et donc vous coordonnez cet ouvrage, Abécédaire des Sciences, qui vient de paraître aux éditions Le Pommier. Stéphane Rosès, vous êtes enseignant à HEC, à Sciences Po, et consultant président, fondateur de CAP, qui pour Conseil, Analyse et Perspective. C'est une société de conseil en communication et en stratégie d'opinion de la société. Marie-François Chevalier-Le Guyader, la vocation de cet abécédaire citoyen des sciences, c'est quoi? C'est d'explorer au fond la démarche scientifique?
Oui, il y a une part effectivement d'exploration de cette démarche. Et puis aussi, nous sommes frappés par le travail que nous avons conduit depuis 10 ans à l'Institut dont nous fêtons l'anniversaire. C'est aussi vrai. La raison de la publication de cet ouvrage. Nous avons été frappés par la puissance des mots et les questions, toutes les ambiguïtés qui pouvaient se créer autour de cette démarche scientifique à travers des usages de mots. Je prends l'exemple de la controverse. On confond aujourd'hui dans l'opinion, Stéphane Rosès, les notions de polémique, d'opinion, d'experts, un amalgame autour des mots. Et donc je me suis dit que peut-être pour fêter ces 10 ans, induire une réflexion à partir des mots. Et en plus, les mots créent donc ce sens, influencent le politique et puis influencent les politiques publiques. Enfin, et s'inscrivent dans une immédiateté qui est tout à fait contraire, là, pour le coup, à la démarche des sciences qui, elle, s'inscrit dans le temps, dans la durée. Et donc, cette immédiateté, elle a besoin d'être explorée et d'explorer ces mots. Donc, c'est pour ça que nous avons fait un choix qui, évidemment, pourrait être aussi différent. On pourrait travailler pendant des années.
Et on va aborder quelques-uns de ces mots dans un instant.
Pour approcher la démarche des sciences dans des domaines aussi bien de sciences exactes que de sciences humaines et sociales et beaucoup de philosophie. Donc aborder le sens qu'il aurait donné par certaines personnalités.
Voilà, donc depuis l'ADN aux villes créatives en passant par les données. Les mots sont importants, Stéphane Rosès, pour convaincre nos hommes politiques d'être plus sensibles à la question scientifique?
Oui, la confusion actuelle sur les mots, les faits faux qui semblent en politique comme en société émerger par rapport aux faits scientifiquement prouvés. Il y a une confusion et je crois que cette confusion vient de ce que, au fond, la science, c'est la traque, la quête du vrai. Alors que les individus, les sociétés, les peuples, eux, leur sujet premier, c'est pas le vrai qu'est dans le réel, c'est l'appropriation mentale du réel, ce qui n'est pas du tout la même chose.
Alors, quelle est la nuance,
quelle est la nuance? Je vais revenir un instant aussi, pourquoi les Français, plus que d'autres, font cette confusion. La nuance vient de ce que, si les communautés humaines s'assemblent, c'est parce que, conscients de la mortalité, ils veulent affronter ensemble le réel. Et ils l'affrontent à partir de quoi? De conceptions diverses selon les peuples et les moments, entre le bon, qu'est-ce qui est bon pour nous collectivement, le juste et l'efficace. Et cette représentation mentale, cet imaginaire pour s'approprier le réel, dépend de la capacité d'un peuple à se construire un paysage dans lequel vont s'insérer ce que les scientifiques appellent le vrai. Mais on est là sur deux ordres différents. Je me souviens autrefois d'un débat que j'avais eu avec Monsieur Allègre, scientifique. Claude Allègre. Et il me disait, mais si 3% des scientifiques pensent que les salades radioactives de Tchernobyl, en fait, ne le sont pas, c'est eux qui ont raison, et pas vos sondages qui disent les Français. Je lui expliquais qu'on était là sur deux registres différents. En démocratie, des personnes qui pensent quelque chose de faux, s'ils sont majoritaires, leur opinion l'emporte, même si les sciences... Alors, ensuite, ce que vous faites, effectivement, Madame Marie-Françoise Chevalier-Le-Guyadère, c'est de faire un pont, c'est faire la pédagogie. Alors, pourquoi en France, il y a cette confusion? Eh bien, c'est très intéressant, vous l'avez dit dans le propos introductif. La science, c'est quelque chose d'important pour les Français, mais c'est plutôt la science fondamentale. Mmh. Méfiance à l'égard de la science appliquée, R&D et tout ce qui s'applique au réel.
Alors,
pourquoi la France est tellement fondamentale? Pourquoi, madame, quand les scientifiques sont en contact avec le public, il y a un engouement? Eh bien, justement, parce que l'imaginaire français, pour rassembler un peuple qui n'a pas d'origine, depuis des siècles, les Français ont été habitués à penser le réel par écart au réel. D'où le fait que nous ayons engendré un philosophe, Descartes, qui pense que l'esprit est séparé du corps et que l'esprit fait le corps. Et donc la raison est quelque chose de tout à fait central dans notre imaginaire.
Sauf que la science, elle nous a montré beaucoup de choses à ce sujet-là, depuis que, justement, il n'y avait plus ce dysfonctionnement entre le corps et l'esprit, que les deux étaient intimement reliés.
La différence entre le réel et la réalité. Les Français pensent que c'est le haut qui fait le bas, parce que c'est leur façon de s'assembler et d'affronter le réel, alors que dans la réalité, le réel, il n'y a pas de différence. C'est effectivement entre le haut et le bas. Mais ce qui est important, c'est que les Français ont besoin de construction mentale pour s'approprier l'avenir. Et du coup, ça fait que, prenez le président Macron, quand il dit En Marche, il semble dire que l'innovation est sa propre finalité. Dans les pays anglo-saxons, oui. Les Français ont toujours besoin, eux, d'inscrire l'innovation dans une idée du progrès, c'est-à-dire l'idée un tout petit peu de là où on va, et pas seulement de ce qui marche, de ce qui est efficace.
Alors, ce mot de progrès que vous venez de prononcer, Stéphane Rosès, on va l'entendre également dans la bouche du général de Gaulle en 1965, dans un moment très particulier que vous connaissez parfaitement, c'est l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle.
Il y a, pour ce qui est de la France, ce qui se passe dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même, si c'est possible, veut qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table, et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille.
Voilà, Stéphane Rosès qui connaît la réplique du général de Gaulle par cœur.
Oui, oui, hein, oui, je me souvenais,
65.
Je me souvenais de l'ordre et la pagaille. Ça annonce 68. Le général comprend que les Français veulent la verticalité politique, mais pas trop. Elle devient étouffante quand les Français, à cette époque, peuvent se projeter dans un avenir meilleur. C'est le contraire aujourd'hui.
Justement, Marie-Françoise Chevalier-Le Guyader, ce mot de progrès, d'abord, il paraît un peu désuet quasiment aujourd'hui. Il résonne encore dans la tête des Français ou
oui,
pas? Il signifie quelque chose?
Je pense qu'il faut le faire résonner. Nous en avons besoin.
Et on l'entend plus, ce mot, quasiment.
On l'entend de moins en moins. Il y a 10 ans, on l'entendait encore moins. Je pense qu'on le réentend aujourd'hui dans quelques voix. Et c'est vrai que cette notion de progrès, bon, elle est tellement liée à notre histoire, au siècle des Lumières. Et du reste, Emmanuel Macron a terminé en parlant de la France comme le pays des Lumières et en revenant sur la démarche des Lumières dans un discours de la semaine dernière, ce que j'ai trouvé très positif. Parce que, certes, nous avons quitté la période des Lumières et où le progrès moral allait de pair avec le progrès des sciences. Ça, c'est fini. Mais néanmoins, le problème de notre société aujourd'hui, de mes auditeurs, de nous tous réunis, c'est dans des cultures, des civilisations, c'est pas la même chose, mais qui donnent beaucoup de place à l'innovation, qui sont centrées sur l'innovation et moins sur la connaissance, le progrès qui s'inscrivait dans la durée s'inscrit dans l'immédiateté. Et du coup, il n'existe plus. Nous n'avons même plus les moyens d'en discuter. Donc il faut redonner du sens à des démarches de progrès, et c'est ce à quoi s'attache le livre.
Absolument. Stéphane, pourquoi on n'entend plus ce mot de progrès aujourd'hui? Il y a quelque chose qui est en panne dans la relation à cette notion-là?
Oui, dans l'Occident a toujours construit sa vision du monde, du temps et de l'espace autour de cette idée de construction humaine, volontaire. Or, aujourd'hui, la globalisation économique, financière et numérique sort des gonds de l'imaginaire des peuples. Elle est entretenue par les peuples. Nous voulons tous profiter, ici et maintenant, comme vous dites, madame, des progrès, de l'innovation, de la technologie. Et en même temps, ce mécanisme apparaît peu à peu comme s'autonomiser, cette globalisation, s'autonomiser des communautés humaines. D'où la montée des replis réactionnaires, le populisme, le nationalisme, le radicalisme religieux, qui prétendraient arrêter un temps qui échappe. Alors, évidemment, le cours économique du nouveau type de capitalisme financier fait que se déstructure le progrès antérieur entre progrès technologique, progrès en matière de santé, progrès économique, progrès social, avancée numérique. Et donc, l'individu devient peu à peu scindé. La quête des Lumières, où étaient liés à la fois le progrès de la raison, le progrès de la physique, de la chimie, des sciences naturelles, culturelle de l'époque, les choses commencent à se déliter. Et donc, du coup, les individus attendent des scientifiques des réponses sûres, alors que madame et les scientifiques qui les entourent savent bien que la science est plutôt une quête.
Ouais, et c'est tout le paradoxe.
Et là, il y a une petite tension.
Et ça illustre bien donc ce rapport très ambigu que nous avons, Français, avec la science et les technologies. On y revient dans un instant. Vous êtes les invités du dossier de la tête au carré.
Pendant la campagne électorale, Donald Trump a été très clair sur les questions climatiques.
Nous allons annuler l'accord Paris sur le climat et arrêter de verser l'argent des impôts américains au programme de l'ONU contre le réchauffement climatique.
À la COP22, les ONG disent tout haut ce que beaucoup de diplomates pensent tout bas. Célia Gauthier du réseau Action Climat.
Quelle que soit sa politique sur le climat, Donald Trump ne peut pas faire comme s'il était tout seul. Il ne peut pas nier la science et les preuves de plus en plus nombreuses que le changement climatique induit par l'homme menace nos sociétés et nos économies.
Voilà, Trump et le climat et la COP22, c'est un reportage de Sandy Dauphin qui avait été diffusé en novembre dernier sur France Inter. Mes invités Stéphane Rosès et Marie-Françoise Chevalier-Le Guyader, à l'occasion de l'apparition de cet abécédaire citoyen des sciences aux éditions Le Pommier, pour parler donc de nos relations, nous les Français, avec la science et la technologie. Il y a une entrée d'ailleurs, qui s'appelle 2 degrés,
oui.
Sur la question climatique. C'était important aussi de l'illustrer dans le contexte de ce livre sur les rapports avec les sciences.
Oui, c'est fondamental parce que c'est vrai, il est vrai que le débat autour du changement climatique est devenu totalement emblématique finalement de ce rapport entre science et politique. Aux États-Unis, donc un Américain sur deux lit sa perception, son analyse du climat à un choix politique. Hein, donc on n'est pas du tout dans la même situation que
là. C'est de l'idéologie, c'est plus de la science.
Oui, oui. Ouais. Et du coup, il est vrai que, nous revenions aussi, si on prend un autre pays de l'Europe comme l'Allemagne, nos perceptions de ce changement climatique sont extrêmement différentes d'un pays à l'autre. En Allemagne, les dégâts du climat ont une conséquence morale. On ne doit pas... Par contre, en France, dans des études qui ont été conduites par une psychologue sociale qui s'appelle Madame Sankowska, qui est à Paris 5, en France, les conséquences sont beaucoup plus évaluées sous un angle fonctionnel, économique. Mmh. Donc, nous ne sommes pas du tout dans les mêmes imaginaires sur les transformations du climat. Et donc, dans les discussions internationales, il faut absolument prendre en compte...
La culture. Hein, et ça caractérise nos liens aussi, français
absolument.
Avec la science.
J'ai eu la chance d'être expert sur la plus grande consultation mondiale opérée lors de la COP 21 à Paris. Mmh. Donc, on travaillait à partir du protocole danois dans tous les continents des études qualitatives, quantitatives. Effectivement, longtemps, l'Occident voyait le risque climatique comme un risque grave, réel. On pouvait penser que c'est parce que cet Occident-là, n'arrivant plus à se projeter dans un avenir meilleur, croyait à la crainte eschatologique du risque climatique pour se réapproprier un avenir qui échappe et reposer au nom de l'égalité que nous avons tous à ce que nos petits-enfants habitent dans une planète viable, essayer de retrouver d'autres formes de type de développement économique, social, environnemental. Eh bien, la nouveauté de la période, c'est qu'au moment de la COP 21, même les autres continents, les pays les moins développés, en fait précaires climatiquement, eux aussi souhaitent une prise en charge mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique. Et ce que vous dites, madame, est tout à fait vrai. Ensuite, ça varie quant aux réponses, quant aux appropriations. Les Allemands sont ceux qui sont le plus à dire, mais nous, les pays riches, nous devons aider les pays pauvres, et la raison en est morale.
Donc il y a la responsabilité.
Alors que l'approche française est plus effectivement économico-idéologique.
Marie-Françoise Le Guyader.
Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que la démarche scientifique est par nature une démarche de progrès, c'est-à-dire qu'elle avance par controverse, pas à pas, on peut, tandis que l'innovation, c'est quelque chose de totalement différent. Tout progrès est une innovation, mais toute innovation n'est absolument pas forcément un progrès. C'est notre ami philosophe Heinz Wissmann qui s'exprime comme cela. Et donc, dans les discours sur l'innovation, nous pouvons tout à fait arriver à des discours qui n'ont aucun sens pour le progrès.
Ouais. Est-ce que justement l'éducation, la pédagogie, alors dans le cadre par exemple d'un thème comme le climat, c'est absolument essentiel. Est-ce qu'il faut prendre le temps, ce qu'on ne fait pas d'ailleurs en France, de former le citoyen aussi à la question scientifique. Ce qu'on fait d'ailleurs au Danemark, vous avez cité les Danois.
Oui, absolument, les Danois font ça. Non, mais vous avez tout à fait raison, sous deux approches. La première, l'éducation, c'est faire comprendre, et les démarches de sciences participatives permettent de le faire, faire prendre conscience à la personne qui a d'un côté le réel c'est le réel, il se développe indépendamment de ce qu'on en pense, et il y a d'autre part la réalité. Et pour ça, il faut donner à l'école, mais aussi dans nos grandes écoles, des savoirs qui malheureusement régressent, qui sont les savoirs des humanités, l'histoire, la psychologie, la philosophie, le théâtre, la poésie, les romans, tout ce qui lie ensemble les hommes et les choses pour faire comprendre que les faits, ce sont les faits, et puis les appropriations des faits, c'est autre chose. Vous parliez de Trump, il niait les éléments climatiques. Or, les individus sont tellement inquiets qu'ils préfèrent un fait faux mais rassurant à un fait vrai qui apparaît contingent. Donc, il faut aider les individus à se construire un paysage mental suffisamment rassurant pour qu'ils puissent y intégrer des faits vrais, même si forcément, ils ne sont pas intercorrélés entre eux.
Sauf que Stéphane Rosès, vous qui accompagnez les personnalités politiques justement de premier plan, est-ce qu'il n'y a pas là directement un problème aussi de formation de nos élites à ces questions? question-là, quand même.
Absolument. Formation des élites, et le paradoxe, on l'a dit avec madame, les Français adorent la science, mais regardez, nous sommes en termes de dépenses de recherche et d'environnement, nous ne sommes que le 12e pays au plan mondial. Le livre blanc de la recherche qui vient de sortir fixe des objectifs à 3% R&D, 2% pour l'enseignement supérieur, mais au fond, les efforts sont pas à la hauteur comme à l'époque du général de Gaulle.
Et la connaissance, la connaissance de nos dirigeants.
Voilà, et la connaissance de nos dirigeants, parce que il faut dire là où on veut amener la France, et à partir de ce moment-là, les politiques et la collectivité est prêt à investir dans des gens, c'est ce que disait de Gaulle, hein, on comprend rien à ce qu'il raconte, mais on sait qu'il travaille pour l'avenir à 15-20 ans. Ouais. Pour travailler à l'avenir à 15-20 ans de la nation, il faut savoir ce qu'est une nation, et il faut avoir l'idée de là où on veut l'amener.
Ça, c'est la recherche fondamentale, par exemple. Hein. C'est le temps de la recherche, Marie-Françoise Chevalier-Le Guyader.
Ce temps, me semble-t-il, est encore beaucoup plus long.
Oui, en plus. Hein. Mais il faut du temps. Il faut laisser du temps, d'ailleurs.
Il faut donner du temps au temps.
Aux chercheurs. Hein, et ça, les Français sont d'accord pour le faire, justement.
Je pense, oui.
Puisqu'on voit bien que leur rapport à la recherche fondamentale est beaucoup plus simple, au fond, qu'aux applications. Alors, justement, il y a un domaine qui pose problème aussi beaucoup, c'est celui du génie génétique, avec les transformations qu'on peut opérer aujourd'hui, en particulier sur l'ADN. On va écouter un exemple de CRISPR-Cas9, cette révolution biologique qui divise. C'était un reportage du journal de France 2 en mars 2016.
Tous les labos travaillent sur cette technique. Et les premiers résultats, on les voit notamment sur les animaux. Vous allez voir, je vais vous montrer des chiens lévriers. Ils vont apparaître ici. Eh bien, à gauche, vous allez avoir la version classique du lévrier et à droite, la version modifiée pour avoir beaucoup, beaucoup plus de muscles. Vous allez voir un autre exemple avec ces vaches laitières. Eh bien, elles n'auront jamais de cornes. Leur génome a été modifié pour éviter qu'elles se blessent tout simplement dans l'étable. Ces souris qui apparaissent ici, elles avaient une maladie du foie incurable. Eh bien, une équipe américaine a réussi à les guérir grâce à CRISPR des souris adultes. Ce moustique, il y a quelques mois, une équipe américaine a réussi à le rendre résistant au paludisme. C'est-à-dire qu'il ne transmet plus le parasite à l'homme. On pourrait donc peut-être éradiquer le paludisme dans les prochaines années.
Marie-Françoise Chevalier-Le Guyader, votre abécédaire s'ouvre sur l'ADN, justement. Alors, il y a eu beaucoup de progrès hein, depuis 1953, depuis la découverte donc, de la double hélice, et puis ensuite le prix Nobel en 1962. Là, les Français sont un peu largués, quand même, par rapport à ce qui se passe dans les laboratoires. Là, on en a des exemples très, très précis, quand même. Hein.
Oui, absolument. Et j'ai souhaité ouvrir ce livre avec un chapitre, la lettre de Francis Crick à son fils, qu'il avait une magnifique lettre. Il faudrait que tous les écoliers la lisent. Où il était tellement frappé par la beauté de sa découverte et la simplicité avec laquelle il explique. Et quand on voit 60 ans plus tard la complexité,
c'est
là que l'on voit ce qu'est la biologie par rapport à la physique ou par rapport aux sciences humaines. C'est une discipline extrêmement complexe et le monde biologique n'est pas univoque.
Ouais.
Il a un but peut-être atteint par des voies très différentes. Et à partir d'une... on parle d'innovation, à partir des résultats, de plus en plus... L'innovation médicale se rapproche du résultat de la connaissance. L'innovation est quasi immédiate. Et donc, c'est ce qu'on appelle les biotechnologies. Donc, CRISPR-Cas est un exemple de valorisation économique aussi qui se fait très, très proche du laboratoire. Et donc, ceci a interpellé les communautés scientifiques dès les années 70, aux États-Unis en particulier. Et puis après, il y a eu la naissance des premières guidelines, comités d'éthique qui se sont mis en place très vite parce que les scientifiques sont des gens responsables, sont des citoyens par ailleurs et donc cela continue et donc la dimension de l'éthique, une éthique de la responsabilité que nous sommes encore dans, s'est développée dans nos pays et je pense que parfois on légifère aussi, on passe d'une réflexion de guidelines à des lois, c'est ce que nous avons en France avec les lois de bioéthique, et les élus, les politiques et le dispositif général administratif et politique a compris, je pense, qu'il fallait de l'innovation pour dépasser les obstacles quoi, et qu'il fallait réviser ces lois, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas rester sur des processus, sur des décisions
immuables. Et c'est le cas maintenant tous les 5 ans, par exemple.
Et c'est maintenant, je pense, que c'est... Voilà, donc nous sommes dans une dynamique qui de normes, de création de normes, mais qui est révisable et si notre société s'en accommode, tant mieux.
Ouais. Voilà.
Mais par ailleurs, il ne faut pas oublier que la nouveauté, l'innovation sont des essentiels.
Allez, on se retrouve dans un instant après B-52s.
Looking for the love, get away.
C'était Love Shack avec B-52s.
La tête au carré sur France Inter.
Et mes invités pour parler des Français et de la science, Marie-Françoise Chevalier-Le Guyader, et donc cet abécédaire citoyen des sciences, et Stéphane Rosès. Stéphane Rosès, pour rebondir sur la discussion que nous avions juste avant d'écouter B-52 sur ce lien complexe parfois des Français avec justement la complexité de la science. On parlait de CRISPR-Cas9, de l'ADN, du génie génétique. C'est la complexité qui fait justement qu'il y a une certaine défiance par rapport à certaines technologies.
C'est la complexité quand elle ne peut pas être insérée pour les Français dans l'idée d'une maîtrise commune au travers d'une symbolique qui est souvent une symbolique politique, vous l'avez dit, madame. Le besoin de faire des lois de bioéthique tous les 5 ans, c'est au fond un compromis entre... On a besoin d'un horizon, le progrès, et donc il faut limiter ce qui est possible ou pas du point de vue de l'idée qu'on se fait du bon par rapport à l'idée qu'il y aurait une intégrité humaine, par exemple. Et en même temps, les choses vont très vite. Donc il faut sans cesse remettre sur le métier ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Dans les pays anglo-saxons, le sujet, c'est pas véritablement les comités d'éthique à la Silicon Valley. Quand on voit les théories de Kurzweil sur le transhumanisme, eux, ils sont dans une logique un peu différente, qui est d'ailleurs inquiétante, qui est si ça marche, ça marche. On n'a pas besoin de se poser de questions éthiques.
Et de demander l'avis des citoyens.
Et de demander l'avis aux citoyens, et encore moins aux politiques. Donc, il y a un process de l'innovation scientifique qui avance très très vite. Ceux qui sont à la tête de ce process ont du mal eux-mêmes à mener une réflexion sur ce qu'ils sont en train de faire, tellement les choses vont vite, et il y a des communautés humaines qui réagissent différemment selon ce qu'elles sont culturellement. Donc les anglo-saxons, c'est ça marche ou ça marche pas. Les Européens sont beaucoup plus sensibles à l'articulation entre la démocratie, l'innovation. Par les Français, ça passe symboliquement par la loi, c'est-à-dire l'idée que le haut va fixer à la société et aux chercheurs des limites, des normes, et derrière demeure effectivement la question de où on va, où on va, et quelle idée du bien commun, quelle idée du bon, et la capacité, ça a été dit tout à l'heure, des citoyens de s'approprier que la science, ce n'est pas une certitude, c'est une démarche. Et au fond, dans les sciences participatives, on transforme les citoyens en scientifiques, on leur apprend que l'avancée de la science se fait par tâtonnement, et ce n'est pas une certitude dans un monde inquiétant.
Et les Français aiment participer quand on leur demande, un exemple parmi tant d'autres, avec la migration des grenouilles.
Une année, il y avait tellement de grenouilles et de crapauds sur la route qu'en passant, personne ne pouvait les éviter. Et j'ai eu mon cœur qui est vraiment chaviré. Je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose.
Ils doivent traverser la route pour aller de l'autre côté, dans les étangs, pour se reproduire et pondre leurs œufs. Et donc nous, on a fait le barrage ici. Le barrage, c'est simplement une toile qui empêche les grenouilles et les crapauds de passer et tous les autres batraciens. Et donc, eux, comme ils sont calés, ils ne savent pas où aller. Eh bien, ils vont un petit peu à gauche ou un petit peu à droite et puis ils tombent dans les seaux.
Je pense être utile fondamentalement, même si c'est, comme je vous dis, une petite goutte d'eau. Mais comme le dit la légende du colibri, une petite goutte d'eau plus une petite goutte d'eau plus une petite goutte d'eau fait que nous pourrons encore venir voir et entendre des grenouilles et des crapauds ici dans nos champs et dans nos prairies. Voilà.
Voilà, et cette dame, elle se sent utile, Marie-Françoise Chevalier-Le Guyader. Et c'est une façon de faire de la science comme une autre, d'ailleurs. Hein. On fait
Bien
beaucoup
sûr.
Appel aujourd'hui.
Il y a eu des rapports récemment sur les sciences participatives, du reste pilotées par François Houllier, qui est un ancien auditeur de l'Institut. Et il est vrai que dans certains domaines, c'est tout à fait faisable et utile. Enfin, donc,
On peut compter les grenouilles, les papillons, il y a plein de choses à faire. Mais le muséum fait souvent appel aux Français.
Oui, il y a des Tela Botanica, il y a beaucoup de dispositifs qui permettent une participation à des collègues. collectes, à des comptages, à des... je dirais même que dans le domaine de la santé, des cohortes de patients
bien
sont
sûr.
Aussi des,
et c'est fondamental
des,
pour la
recherche, des sources hein. de participation. Et...
on voit pour le sida, Alzheimer, il y a des domaines voilà. très particuliers donc, où les associations tout... de patients jouent un rôle
sûr,
très important.
Sûr. Comme toujours, tout ne s'y prête pas, forcément. Et, mais le sondage, un sondage qui avait été fait en 2016 par le secrétariat d'État à l'enseignement supérieur et la recherche sur l'intérêt des Français pour les sciences participatives mmh. montrait un très grand intérêt, y compris dans les sciences humaines et sociales, mais là ça devient dans l'enquête aussi,
oui.
mais ça devient peut-être un peu moins que dans des domaines comme la santé ou les sciences naturelles, les
oui.
sciences
et de la nature. C'est frappant de Stéphane voir, Rosès. Je parle sous votre contrôle, madame mmh. et vous, cher ami, il y a des labs de biologie qui, au bout de 2-3 ans, sont, au dire des scientifiques qui sont à la tête, qui avancent beaucoup plus vite que des labos traditionnels. C'est-à-dire que, visiblement, dans tout un tas de domaines, a fortiori les sciences humaines, le décloisonnement des savoirs, mais il faut qu'il y ait savoir, évidemment, entre le scientifique, l'utilisateur, celui qui va être dans le process d'innovation, permet aussi aux scientifiques de s'aérer intellectuellement et par l'écoute des autres à progresser. Je me souviens qu'Étienne Klein avait raconté que les principes de la physique quantique avaient été trouvés dans un hôtel à Bruxelles entre, je n'y connais rien, hein, mais une dizaine de physiciens européens de pays différents.
Congrès Solvay.
Voilà, voilà. Et là, moi, je trouve très intéressant, l'intelligence vient de la confrontation de cultures différentes. Il faut accepter et comprendre les cultures différentes et il faut, en les faisant travailler, il se passe des étincelles mentales. Bon, eh bien, je crois pareil entre le chercheur, celui qui est dans l'innovation, le citoyen, le consommateur, l'utilisateur, dans tout un tas de domaines de la vie
économique. Il faut faire phosphorer tout le monde ensemble.
Voilà, en faisant phosphorer, il y a des innovations, il y a des choses qui sortent.
Marie-Françoise Chevalier, Le Guyadet, est-ce que c'est vraiment une tendance qui va se préciser et qui va caractériser la science du futur ?
Ce type d'approche est très pertinent pour l'innovation, parce que l'innovation touche aux usages. Hein. Donc, effectivement, vous avez à l'heure actuelle énormément de lieux numériques qui se créent dans des villes, des régions, des Fab Labs,
oui,
mais c'est
ouais.
vraiment centré sur des questions d'innovation, donc entre guillemets, quelque part d'application aussi de concepts scientifiques, mais pour des usages économiques, sociétaux. Par contre, en ce qui concerne la connaissance elle-même, je veux dire, il y a des collaborations, mais je pense qu'il faut garder la légitimité de chacun des acteurs en tête. C'est-à-dire
ça veut dire quoi ? Il ne faut pas trop s'immiscer dans le laboratoire ?
Pas forcément, mais in fine, la validation de la connaissance, elle ne relève pas d'un consensus social, elle relève d'un formalisme et de normes bien précises dans lesquelles il faut que rentrer pour garder la cohérence de la démarche. Mais ça n'exclut absolument pas des participations et de la coproduction.
Stéphane Rosès.
Mais tout à fait d'accord. C'est surtout dans le domaine de l'innovation. Alors, il y a quelque chose pour le profane total que je suis, que je trouve très intéressant, mais que je vois en termes d'application entre, par exemple, les labos pharmaceutiques et puis la question du numérique. Hein. Vous savez que Google investit plus maintenant en matière de santé que l'ensemble des labos pharmaceutiques. Et les labos pharmaceutiques et la santé, c'est de la recherche. C'est des dizaines de milliers de chercheurs qui, partout, recherchent. Très peu d'entre eux vont trouver, ça coûte très cher. Bon, et ce que je trouve très intéressant en ce moment, ce sont les débats entre les scientifiques traditionnels et les gens du numérique, qui vont accumuler des données, des data.
Et il y a une entrée d'ailleurs sur les données dans votre
ABCD. Voilà, absolument. Et comment il doit y avoir un échange. Parce que le scientifique, c'est un homme de la technique très poussée, et en même temps, c'est un artiste au sens fort du terme. Lui seul peut donner sens à de la donnée, et en même temps, les données apportent, par leur cumul, des choses tout à fait intéressantes et décisives.
Marie-Françoise Chevalier-Le Guyader, pour conclure, sur ces liens des citoyens à la science, justement, parce que c'est l'objet de ce livre.
Oui, c'est l'objet de ce livre, mais notre institut s'adresse à des responsables professionnels. Ils forment, en formation continue, des responsables aux enjeux des rapports science-société. Et donc, il y a le public, tout le monde, mais il y a aussi besoin que nos dirigeants, on en parlait, oui, puissent, à un certain moment de leur existence, reprendre pied avec la démarche scientifique, avec l'état des rapports science-société, se confronter à des opinions extrêmement différentes en amont du débat public, je dirais, pour prendre la mesure du développement aussi des sciences. Et on constate que nos élites, sont souvent très cloisonnées. Chacun joue dans son univers. Nous avons dans notre institut des gendarmes, des syndicalistes, des politiques, des scientifiques, des juristes, des économistes, des industriels, des journalistes. Et chacun joue de son violon, mais jouer en orchestre, c'est beaucoup plus compliqué. Et réapprendre ce sens du collectif pour la décision, dans l'intérêt de la démocratie même, c'est essentiel. Et c'est ça que notre institut cherche.
Voilà, et c'est une discussion importante aujourd'hui au cœur de cette actualité élyséenne. Ce lien des Français à la science. Abécédaire citoyen des sciences, donc, c'est aux éditions Le Pommier. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus en parler. Ainsi s'achève cette Tête au Carré. Merci à Fabrice Desmas qui était à la technique, Stéphanie Texier pour la réalisation, et dans un instant ce sera Affaires Sensibles avec Fabrice Drouel, la révolution culturelle chinoise de 66 à 76, ce sera le thème aujourd'hui de l'émission. Bonne journée, à demain.